Europe 1.
C'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche. L'État islamique est revenu depuis l'attentat de Moscou au centre des inquiétudes. On va voir ça avec Myriam Benrad. C'est ma première invitée ce matin. Je recevrai ensuite Frédéric Charillon. La force et l'intimidation sont de retour dans les relations internationales. Il va nous expliquer à quoi il faut s'attendre. Et l'on terminera l'émission avec Cédric Sueur dans les péripéties d'un primatologue qui vient juste de paraître. Il nous raconte comment font les singes pour voter ou pour s'échanger des biens ou pour se distraire. Est-ce que ça nous apprend sur nous, les êtres humains ?
Europe 1.
Myriam Benrad, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'une des meilleures spécialistes en France de l'État islamique. Vous êtes notamment l'auteur de « L'État islamique est-il défait ?» chez CNRS Éditions. L'État islamique est redevenu le centre de la tension dans notre pays depuis qu'il a revendiqué l'attentat de Moscou et que 323 menaces d'attentat ont été diffusées cette semaine via les plateformes numériques des lycées français. Nicole Belloubet, la ministre de l'Éducation nationale, a dû suspendre à titre préventif toutes les messageries des espaces numériques dans nos établissements scolaires. C'est bien Daesh, à vos yeux, qui est derrière tout ça ?
Bah oui, très clairement. Je pense tout d'abord qu'il y a un vrai problème qui n'est pas résolu concernant ces plateformes numériques où règne un sentiment d'impunité absolue. Et ça fait très longtemps que la situation est la même, en dépit des promesses qui avaient été faites par un certain nombre de ces opérateurs numériques de tarir la propagande djihadiste et de mettre fin à cette impunité généralisée. Et très clairement, c'est l'État islamique ou, je dirais au sens plus large, la galaxie de ses sympathisants qui, on le sait, demeurent nombreux encore aujourd'hui, malgré les revers du groupe et malgré peut-être un sentiment diffus parmi la population qu'on en avait fini avec cette menace.
Vladimir Poutine et les autorités russes persistent à dire que les auteurs de l'attentat de Moscou, revendiqué par Daesh et qui a fait 143 morts, ont reçu d'importantes sommes d'argent envoyées d'Ukraine qui auraient été utilisées pour préparer l'attaque. Les Américains ont qualifié ça d'absurde. Est-ce que vous aussi ?
Alors, je pense que dans le cas de la Russie, c'est quand même particulier parce qu'on a un régime, celui de Vladimir Poutine, qui, on l'a vu à travers ses réactions à l'attentat de Moscou, dans un déni absolu, qui n'a d'ailleurs pas de raison de l'être parce que les Russes savent très bien qu'ils sont face à une menace structurelle qui est celle de l'État islamique, qui a été longtemps celle d'autres mouvances djihadistes, soit actives au sein de la Fédération russe elle-même, donc évidemment notamment en Tchétchénie, soit actives dans les pays du Caucase ou encore en Asie centrale, qui n'ont pas baissé la garde, qui se sont ralliés pour un certain nombre sous la bannière de l'État islamique et qui ont combattu les troupes russes en Syrie également, puisqu'il faut quand même rappeler qu'il y a eu un nombre très important de ressortissants russes qui ont convergé vers la Syrie pour y faire le djihad, pour y conduire le djihad contre les troupes américaines, puis ensuite contre les troupes russes et un certain nombre de leurs ennemis en Syrie, à savoir évidemment au premier plan le régime de Bachar el-Assad. Ces mêmes combattants sont décédés, pour un certain nombre ont été éliminés dans les combats, mais d'autres se sont, on le sait, éparpillés ici et là, sans véritablement rester dans le radar des services de renseignement russes. Et voilà le résultat. On s'aperçoit qu'on a des mouvances finalement très organisées, transnationales, qui peuvent opérer depuis l'Afghanistan, depuis les pays d'Asie centrale, qui peuvent conduire ce type d'attaque commando qu'on croyait aussi derrière nous. Donc je pense qu'il y a un déni vraiment total de la Russie face à cette menace.
Ou alors Vladimir Poutine fait comme George W. Bush. Souvenez-vous, avant l'invasion de l'Irak en 2003, le président Bush et son administration avaient affirmé que Saddam Hussein était lié à Al-Qaïda et avaient même réussi à persuader 69% des Américains à l'époque que Saddam avait joué un rôle dans les attentats du 11 septembre.
Oui, alors de ce point de vue, il est vrai que les Russes n'ont pas le monopole de la propagande. Si on remonte à plus loin, en effet, l'administration de George Bush s'est illustrée par cette propagande assez caricaturale qui, pour justifier une intervention militaire contre le régime de Saddam Hussein, en réalité, qui était dans les cartons depuis très longtemps, je dirais depuis l'après-première guerre du Golfe, et qui a trouvé une justification avec les attentats du 11 septembre. Il y a eu à l'époque, effectivement, cette connexion très caricaturale faite entre Al-Qaïda et le régime de Saddam Hussein pour justifier une intervention militaire. On est peut-être sur une logique similaire dans la mesure où on voit très bien que reporter la faute sur l'Ukraine pour Vladimir Poutine, c'est bien entendu justifier un regain d'opérations militaires contre ce pays et surtout un regain aussi, évidemment, de la confrontation qui l'oppose à l'Occident, qui est son obsession absolue, puisque tout le narratif aujourd'hui consiste aussi, bien sûr, derrière l'Ukraine, à diaboliser les États-Unis et d'autres nations occidentales, à commencer par celle d'Europe de l'Ouest.
Alors Daesh est donc encore capable de monter une opération aussi spectaculaire. Remarquez, il y avait eu l'attentat de Kerman en Iran qui a fait 94 morts et 284 blessés en janvier dernier, également revendiqué par Daesh.
En effet, on s'y attendait peu parce qu'on pensait finalement que les revers territoriaux, politiques, infrastructurelle de ce mouvement dans son terreau syro-irakien allait signifier un affaiblissement de fait de ces provinces qui lui sont rattachées ici et là à travers le monde, et notamment donc dans la région du Caucase, comme je l'ai dit, en Asie centrale, évidemment aussi en Afghanistan avec le IKA. Et on voit en réalité qu'ils sont toujours capables, par leur détermination, parce qu'ils disposent encore d'un certain nombre de moyens, de conduire ce type d'opération. Donc on a vu les réactions évidemment en France avec cette alerte rouge qui a été décrétée immédiatement, parce qu'on sait très bien qu'ils peuvent aussi, depuis ces zones de combat, se projeter vers d'autres théâtres. C'est exactement ce qui s'est passé en 2015, souvenons-nous, avec l'attentat du Bataclan. Et d'ailleurs, ce qui s'est produit en Russie est quand même assez, je pense, peut-être qualifié de Bataclan russe, parce que c'est assez proche de ce qui s'est produit en France il y a près de 10 ans maintenant.
Et alors pourquoi la Russie ?
La Russie, pour un certain nombre de raisons, de manière immédiate, pour ses ingérences dans le monde musulman, puisque rappelons quand même que les mouvances djihadistes ciblent tous ceux qu'elles perçoivent comme étant des ennemis de l'islam et qui s'ingèrent dans les affaires des pays musulmans. Ensuite, il y a eu bien sûr l'intervention militaire russe en 2015 en Syrie en appui au régime de Bachar el-Assad, qui a quand même laissé une rancœur très importante dans les rangs de ces mouvances djihadistes. Et puis après, de manière plus lointaine, on pourrait remonter jusqu'au djihad en Afghanistan contre les soviétiques, suivi, on le sait, de l'insurrection armée djihadiste en Tchétchénie, et puis d'une radicalisation assez profonde d'un certain nombre de milieux musulmans dans les pays, comme je l'ai dit, caucasiens et centra-asiatiques. Tout cela converge vers un sentiment, une rancœur, une rancune cristallisée depuis très longtemps, et qui donc considère encore que la Russie est un ennemi existentiel à abattre. Donc on peut là tout de même pointer du doigt peut-être un certain relâchement de la Russie face à une menace qui restait objective et qu'il savait, je pense, tout de même durable.
Les menaces d'attentats dans les lycées français, 323 cette semaine, je l'ai dit, c'est lié à votre avis à l'attentat de Moscou ?
Oui, très clairement. Alors, est-ce que c'est complètement lié ? Dans l'absolu, on pouvait s'attendre, parce qu'on est aussi en plein mois de Ramadan et que c'est un mois lors duquel les djihadistes appellent à redoubler de violence contre leurs ennemis. On pouvait s'attendre à des réactions violentes, ce type de menaces, d'intimidation. Mais là, on sent tout de même, en effet, que l'attentat de Moscou a redonné du zèle, un certain sens de la détermination à certains milieux radicalisés qui opèrent soit depuis l'étranger, soit en France. Donc c'est très inquiétant, et je suis quand même, pour ma part, sidérée de voir le nombre de menaces donc qui ont été exprimées, encore une fois en toute impunité sur les réseaux sociaux, et puis surtout les conséquences que ça a quand même pour nos établissements scolaires, pour un certain nombre de professeurs, on a vu l'affaire du proviseur récemment. Il y a eu deux professeurs assassinés de manière abjecte en France, Samuel Paty puis Dominique Bernard. On n'est pas sorti encore quand même du traumatisme collectif qui a été provoqué par ces actes. Donc c'est très anxiogène.
Alors néanmoins, les services de renseignement veillent en France, mais la désorganisation du monde depuis l'invasion de l'Ukraine, est-ce que ça ne profite pas aux organisations terroristes ?
Oui, tout désordre, toute turbulence, toute fenêtre d'opportunité et bien entendu exploité, instrumentalisé par ces mouvances qui, de toute façon, ont pour projet de créer justement ce climat anxiogène, de terreur, de peur parmi les populations pour mieux opérer. Donc, on a en effet, je pense, clairement une mise à niveau depuis plusieurs années du renseignement en France et ailleurs, mais ça ne peut pas se substituer à des solutions politiques dans le cas d'un certain nombre de conflits. Et on n'a pas parlé du Proche-Orient. Vous vous doutez bien que la guerre à Gaza et ce que ça va générer de séquelles et aussi de ressentiments réciproques vient encore alimenter ce narratif djihadiste et susciter des vocations parmi des esprits faibles qui se laissent facilement happer, manipuler, encore une fois parce que nous avons cet espace, cet écosystème numérique qui est totalement permissif, et j'insiste quand même sur le fait que je trouve cela particulièrement scandaleux. On est en 2024, ça fait quand même 10 ans qu'on essaie de réguler, qu'on essaie de venir à bout de ce fléau.
Autrefois, les services de renseignement coopéraient face à la menace terroriste. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça n'est plus possible, notamment avec les Russes.
Alors, dans le cas du renseignement partagé avec les Russes, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus compliqué avec, évidemment, la guerre en Ukraine depuis 2022. Maintenant, on a tout de même vu que les États-Unis avaient alerté la Russie, qui en retour a qualifié cette alerte de provocation. Bon, ce qui discrédite encore plus, je pense, la ligne qui est tenue par Vladimir Poutine. Donc, le partage d'informations de renseignement n'est pas totalement rompu, mais il est vrai qu'il a beaucoup pâti de cette guerre en Ukraine et de cette confrontation dans laquelle Vladimir Poutine a voulu entièrement se lancer.
Merci Myriam Benrad. Je rappelle que vous êtes l'auteur de « L'État islamique est-il défait ?» C'est paru chez CNRS Éditions.
Merci beaucoup.
Et nous, on fait une pause et on va continuer de parler d'intimidation, mais au niveau des relations internationales, cette fois avec Frédéric Charillon.
C'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï.
Frédéric Charillon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, vous êtes l'auteur de « Guerre d'influence » chez Odile Jacob. Et dans le quotidien L'Opinion de cette semaine, vous revenez sur les parallèles historiques qui sont faits aujourd'hui avec les années 30, la montée des périls, les accords de Munich et le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce qu'il vous semble pertinent ?
Alors, oui, d'une certaine manière, il y a des points communs, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une opposition entre des démocraties et des régimes autoritaires. Ensuite, on voit qu'il y a le risque, comme un peu dans les années 30, d'un grand allié américain qui, on le sait, jusqu'à l'attaque de Pearl Harbor en décembre 41, ne voulait pas intervenir dans les affaires européennes, et ça a duré même assez longtemps. Donc, de ce point de vue-là, il y a des parallèles. Il y a aussi
dans le cas du retour de Donald Trump au pouvoir.
C'est ce ce parti avec ou sans Donald Trump au pouvoir, il existe aujourd'hui avec force aux États-Unis. D'ailleurs, même si Donald Trump ne remportait pas la prochaine élection, je pense que ce courant-là va rester. Donc c'est une tendance de fond dans la société américaine aujourd'hui.
L'isolationnisme.
C'est un retour à l'isolationnisme, mais qui a toujours été présent, mais pas tellement pendant la guerre froide. Là, c'est vraiment un grand retour. Et puis, on a évidemment une agression en Europe. Et même d'ailleurs en Europe occidentale, on a un certain nombre de leaders politiques ou de partis politiques qui ne souhaitent pas condamner cette agression. Et donc, de ce point de vue-là, on a un certain nombre de parallèles. Alors évidemment, tout ça avec beaucoup de changements néanmoins, on n'est plus dans la même époque, c'est vrai, mais il y a un point commun, c'est qu'il y a une stratégie d'intimidation, un retour à la force. On entend les intimidations de Vladimir Poutine, c'est-à-dire si je veux, je vous écrase, je peux utiliser l'arme nucléaire. On a entendu même le vice-président de la Douma dire les soldats français vont rentrer dans des cercueils à Orly. Donc on retrouve c'est la brutalité.
C'était après que Emmanuel Macron ait dit qu'il parlait d'envoyer des soldats en Ukraine. Hein, c'était la réponse. Alors c'est vrai que c'est ce que vous dites dans votre article, hein, Frédéric Charillon, la force et l'intimidation sont de retour dans les relations internationales. Vous ajoutez la rhétorique de la paix et de la négociation sont devenues synonymes de faiblesse.
Oui, parce que pendant plusieurs années, notamment après la fin de la guerre froide, d'abord dans les années 90, puis dans les années 2000, on était quand même dans une époque où, pour être crédible et légitime dans les relations internationales, il fallait être un négociateur, il fallait promouvoir la paix, il fallait soutenir des processus de paix. On se souvient souviens, des États-Unis qui ont essayé de lancer le processus de paix au Proche-Orient à partir des accords d'Oslo et des pourparlers, ce qui a d'ailleurs avait abouti à l'époque à une poignée de main entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat le 13 septembre 93 sur la pelouse de la Maison Blanche. Le même Bill Clinton avait essayé de promouvoir la paix et avait réussi d'ailleurs en Irlande du Nord. Et on avait cette époque où on sentait que des leaders politiques ou des diplomaties nationales voulaient montrer qu'elles étaient dans une logique, une dynamique de paix. Aujourd'hui, ceux qui font ça, on a l'impression qu'ils passent pour des faibles, pour des naïfs, et au contraire, l'heure est aux hommes forts, si on peut dire. Si on regarde un petit peu qui fait l'actualité aujourd'hui, c'est Vladimir Poutine, c'est Xi Jinping, quand il menace Taïwan d'utiliser la force pour la ramener dans le giron chinois, c'est Erdogan de temps en temps qui menace la Grèce ou quelques autres, c'est évidemment aussi l'Azerbaïdjan en Arménie, et même d'une certaine manière, en Israël, Benjamin Netanyahou joue cette carte de l'homme fort, de l'utilisation de la force. C'est un moment où très clairement les autres ont l'air faibles.
La Chine, dites-vous, en est un bon exemple. Sa rhétorique a longtemps été pacifique et rassurante. Aujourd'hui, elle n'exclut plus l'usage de la force vis-à-vis de Taïwan.
Oui, alors il y a eu un tournant. On le sentait déjà un petit peu avant l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. C'est-à-dire, moi je me souviens, jusqu'en 2009, la Chine accompagnait son développement et sa montée en puissance économique d'une rhétorique très rassurante, en disant mais on veut un développement harmonieux. D'ailleurs, il ne voulait pas trop parler de puissance. Et puis, on a senti après 2009, vers 2009-2010 que ça changeait. Je me souviens, il y avait un sommet de l'APEC, de l'Association des États du Pacifique, en 2010, je crois, où la Chine avait dit, de toute façon, la seule réalité dans cette région, c'est que la Chine est un grand pays, les autres ne sont que des petits pays. Donc, on sentait que le ton avait changé. Et puis, évidemment, l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping à partir de 2013 a opéré un vrai changement de ton. Et aujourd'hui, la Chine dit, nous n'excluons pas la force. Et on a bien vu son intimidation avant les élections taïwanaises. Quand les électeurs s'apprêtaient à voter pour quelqu'un qui ne plaisait pas à Pékin, il y a eu des sévères mises en garde sur le mode, si vous votez pour ce monsieur, ça va mal se passer. Ils ont voté quand même pour ce monsieur, ce qui montre que l'intimidation n'a pas fonctionné, mais l'intimidation était là.
Mais Frédéric Charillon, l'Occident, vous le reconnaissez vous-même, a sa part de responsabilité là-dedans. L'invasion de l'Afghanistan, de l'Irak, la guerre en Libye, ont ouvert la boîte de Pandore. Recours à la force, c'est quand même l'Occident.
Oui.
Le premier qui l'a fait, vous auriez pu ajouter d'ailleurs le bombardement de la Serbie et du Kosovo par les forces de l'OTAN en 1999. C'est là qu'on a ouvert la boîte de Pandore en utilisant la menace d'abord et la force ensuite.
Alors, il y a eu effectivement cette évolution, très clairement. Les années 90, c'est vrai, c'était les processus de paix. Il y a eu les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, qui a vraiment été un changement de donne tout à fait important. Et là, on a vu, en plusieurs étapes d'ailleurs, on a vu l'Occident d'abord ne pas forcément respecter le droit international lui-même. La guerre irakienne, qui était une guerre de choix, c'est-à-dire que Saddam Hussein a été accusé d'avoir des armes de destruction massive, point sur lequel les États-Unis sont revenus eux-mêmes après en admettant qu'ils avaient menti. On se souvient de Colin Powell, le secrétaire d'État de l'époque, qui a ensuite dit et écrit même dans ses mémoires que c'était une tâche sur son parcours, qu'il regrettait ça énormément. Donc
il disait aussi qu'il était complice dans les attentats du 11 septembre, exactement comme Poutine aujourd'hui dit que l'Ukraine est complice dans l'attentat de Moscou.
Absolument.
Par Daesh.
Absolument. Il y a eu ce qu'on appelait cette hubris, c'est-à-dire cette démesure américaine qui rêvait à un moment de changer le monde, et qui estimait que puisqu'il y avait un problème avec le Moyen-Orient, il fallait changer le Moyen-Orient et refaire les sociétés du Moyen-Orient, y compris par la force. C'est ce qu'on appelait à un moment le wilsonisme botté, c'est-à-dire changer le monde et imposer la démocratie, y compris par la force. Donc oui, absolument, les Occidentaux, avec leur changement de régime, qu'on a essayé de faire en Serbie, effectivement, en Irak, en Libye, ont été les promoteurs, à un moment, de ce retour de la force, dans un moment où ils pensaient qu'ils n'avaient pas, ce qui n'était pas complètement faux d'ailleurs, de peer competition, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas en face d'eux de gens qui pouvaient jouer dans la même cour. La Chine n'était pas aussi puissante qu'elle l'est aujourd'hui. La Russie pensait ses plaies de l'après 91, après la fin de l'Union soviétique. Donc les États-Unis et les pays occidentaux avaient une sorte de champ libre, effectivement, pour remodeler le monde à leur façon, et ils ont été tentés de le faire par la force, et ils ont ouvert la boîte de Pandore, comme vous l'avez dit.
Et Poutine va s'y mettre aussi à partir de 2008.
Ouais.
Mais on fait une pause, Frédéric Charillon, et vous allez nous raconter ça.
9h-10h, C'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Frédéric Charillon est mon invité ce matin. C'est l'auteur de Guerre d'influence chez Odile Jacob et d'une chronique très intéressante dans l'Opinion qui, cette semaine, revenait sur le retour de la force et de l'intimidation dans les relations internationales. Alors, on a dit comment ça s'était produit. Hein. Ça commence, pour ainsi dire, en 1999 quand l'OTAN commence à bombarder la Serbie et le Kosovo. En 2008, c'est au tour de Vladimir Poutine d'avoir recours à la force et à l'intimidation. C'est en Géorgie que ça se passe, juste après le sommet de l'OTAN au cours duquel George W. Bush, à l'époque, avait dit que la Géorgie et l'Ukraine avaient vocation à entrer dans l'OTAN. C'est la goutte qui a fait déborder le vase.
Alors c'est très difficile ce débat parce que les Américains disent on n'a jamais rien promis quand les Russes aujourd'hui disent mais vous nous aviez promis que vous n'allez pas à l'époque élargir l'OTAN, les Américains ont dit on n'a jamais dit ça. Bon, il y a un jeu de toute façon de l'équilibre des puissances et de la loi du plus fort en relations internationales qui fait que tout ça n'est pas très étonnant. L'Union soviétique s'est effondrée en 1991, les États-Unis ont poussé leur avantage, c'est évident. Donc effectivement des pays d'Europe centrale et orientale qui étaient sous le joug de l'Union soviétique ont fini par rejoindre l'OTAN et l'Union européenne. Ça n'a pas plu, évidemment, à Moscou, qui voyait là un grignotage de son ancienne sphère d'influence. Et effectivement, il y a une rancœur très très forte qui reste, qui persiste de ce temps-là. Alors, est-ce que c'est vrai que les Américains avaient promis quelque chose? On n'en a pas de trace.
Toujours est-il qu'au moment où on parle de la Géorgie et de l'Ukraine, on parle d'anciennes républiques soviétiques.
Oui, absolument.
Et là, évidemment, alors il y avait eu les États baltes avant, mais enfin là, c'était plus particulier.
Alors très clairement, il y a eu, si vous voulez, une progression de l'OTAN dans ces années-là. Et on a senti qu'à un moment, Vladimir Poutine, qui est arrivé au pouvoir, lui, en 2000, a voulu vraiment mettre un frein à cette expansion de l'OTAN, et il l'a prévenu d'une certaine manière. D'abord, il y avait un désaccord sur le Kosovo, où très clairement, les Russes nous avaient dit, attention, si vous commencez à reconnaître le Kosovo et à démanteler la Serbie, nous aussi, on peut s'amuser à ça. On peut faire ça avec des républiques séparatistes en Géorgie, il y a la Transnistrie en Moldavie, il y a des minorités russes importantes dans les pays baltes, donc c'est vrai qu'on avait été prévenu en quelque sorte.
Et on l'a fait quand même.
Ensuite, deuxième avertissement, attention, la Géorgie et l'Ukraine, vous n'y touchez pas. La France et l'Allemagne, on s'en souvient, étaient d'ailleurs très prudents en disant attention, non, ça, il ne faut pas commencer à parler d'intégration.
Ouais.
On n'est pas favorable à l'intégration éventuelle dans l'OTAN de ces deux pays. Premier avertissement suivi des faits, c'est effectivement l'invasion de la Géorgie en 2008, ce qui d'ailleurs pose à l'époque la question de la crédibilité de l'OTAN. La crédibilité de l'OTAN, c'est que l'article 5 dit, si un de ses membres est attaqué, tout le monde va le défendre, ou en tout cas tout le monde va venir à son aide. Quand Poutine envahit la Géorgie en 2008, tout le monde a la question à l'esprit, c'est-à-dire est-ce qu'il l'aurait fait quand même si la Géorgie avait déjà fait partie de l'OTAN? Alors il y a les optimistes qui disent, justement, jamais il n'aurait fait ça. Donc ça montre bien qu'il faut continuer à intégrer ces pays dans l'OTAN. Et puis il y a ceux qui commencent à dire, et s'il l'avait fait quand même, est-ce que nous aurions voulu mourir pour la Géorgie? Et quelques années plus tard, ça nous donnera Donald Trump, qui est au micro de Fox News, au moment de l'intégration, cette fois du Monténégro dans l'OTAN, lorsque le présentateur de Fox News lui dit, est-ce que moi je vois pas pourquoi j'enverrais mes enfants mourir pour le Monténégro? Donald Trump fait cette réponse qui sonne comme un coup de tonnerre, il dit « je vous comprends parfaitement parce que je pense la même chose ». C'est-à-dire qu'en quelques secondes, il démolit la crédibilité de l'article 5 de l'OTAN, et donc on se retrouve tous avec cette question, on a une alliance qui s'est élargie, y compris à des petits pays dont peut-être d'ailleurs le président américain ne saurait pas les situer sur une carte, est-ce que vraiment on est prêt à une guerre avec la Russie pour ces petits pays? Bon, là c'est pas des petits pays, c'est l'Ukraine, mais la question est posée.
La force et l'intimidation sont donc de retour. Emmanuel Macron, qui se singularisait au début de la guerre en Ukraine en voulant continuer de parler avec Poutine et qui laissait entendre que tout cela finirait par des négociations, adopte aujourd'hui une rhétorique va-t-en-guerre en disant que la défaite de la Russie est indispensable et en parlant d'envoyer des troupes en Ukraine.
Ouais. Alors, c'est pas aussi clair que ça, c'est-à-dire qu'il a dit qu'il ne voulait pas exclure, qu'il n'excluait aucune option. Il n'a pas dit « on va envoyer des troupes en Ukraine ». Il a dit « on ne peut rien exclure ». Alors peut-être d'ailleurs pensait-il parfois à des conseillers militaires ou des forces...
C'est probablement ce
c'est
à quoi il
évidemment
pensait.
Plutôt, mais évidemment, la rhétorique a fait bondir beaucoup de gens. D'abord, elle a créé une sorte de réaction chez nos propres partenaires européens et d'ailleurs même à Washington. La ligne américaine depuis le début, c'est de dire « la Russie ne doit pas l'emporter en Ukraine » au sens où on ne peut pas cautionner une agression qui se solderait par effectivement des prises territoriales. Il ne faut pas que la Russie réussisse, mais Notre priorité, notre ligne rouge, c'est pas d'affrontement direct avec la Russie. Les États-Unis ont toujours été clairs, l'administration Biden a toujours été clair, on ne veut pas de guerre directe avec la Russie. Donc c'est pour ça qu'évidemment, quand Emmanuel Macron dit, on n'exclut pas l'envoi de troupes au sens peut-être conseiller militaire, mais tout le monde entend, on pourrait envoyer des soldats en Ukraine.
Et ça fait l'intimidation, comme les autres au fond. Il a recours à l'intimidation.
Il a recours, en tout cas, à une volonté de montrer une détermination. Le problème, me semble-t-il, c'est quand on fait ça, il faut se mettre d'accord avec nos partenaires européens. C'est-à-dire qu'il faut se concerter un petit peu. Si on prend le risque de se faire désavouer par tous les autres le lendemain, et c'est quand même un petit peu ce qui s'est passé, la démonstration de détermination, elle n'est pas complète, on va le dire comme ça.
Mais au fond, tout ce que vous décrivez, Frédéric, c'est ce qu'on appelle la montée aux extrêmes, non ? Est-ce que c'est ce qu'on est tous en train de faire ? On monte aux extrêmes ?
Alors, on est dans un bluff, en tout cas. On est dans une volonté de détermination, de montrer sa détermination de part et d'autre. Le problème, c'est que ça peut très mal finir. Ces affaires-là. Parce qu'à partir du moment où on monte d'un cran des deux côtés, on galvanise aussi les opinions derrière. C'est surtout le cas des régimes nationalistes comme en Russie. Il y a eu un sondage très intéressant, il n'y a pas très longtemps, par un organisme russe et des sociologues russes qui sont toujours à Moscou, mais qu'on considère quand même toujours tout à fait digne de foi et sérieux. C'est pas forcément de la propagande pure, qui montrait que les Russes aujourd'hui soutenaient Poutine, alors, dans tous les cas de figure, c'est-à-dire, on leur posait la question, si Poutine vous dit qu'il faut continuer la guerre en Ukraine, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, on est, en gros, 75%, on est d'accord. Et s'il vous dit qu'il faut arrêter la guerre en Ukraine, on est d'accord aussi. Mais alors, en revanche, il y a une autre question, c'est-à-dire, et si il vous dit, faut qu'on abandonne l'Ukraine et qu'on rende les territoires qu'on a pris, et bien là, il y avait une majorité pour dire non, on serait pas d'accord. Ça veut dire que, du côté russe, même quand on a ce genre de rhétorique, on entraîne l'opinion derrière soi, c'est difficile de faire marche arrière après. De la même manière que dans les démocraties occidentales, si on dit il faut rester aux côtés de l'Ukraine, je pense qu'il va être très difficile après de leur dire, finalement, on laisse tomber. Je pense que ça va pas être si facile que ça. Donc on est dans une escalade verbale, mais il faut se méfier des escalades même verbales.
Vous le dites vous-même, l'histoire des relations internationales connaît trois méthodes face à l'intimidation. La première, c'est l'apaisement, auquel cas on se fait traiter de munichois.
Voilà.
La deuxième, c'est l'escalade. Mais il faut en avoir les moyens. Et la troisième, c'est le containment, c'est la guerre froide, telle qu'on l'a connue, mais il faut avoir des alliés partout dans le monde.
Oui, alors les trois, ce qui était intéressant, c'est qu'on a l'impression que la France a essayé au moins les deux premières méthodes dans sa rhétorique. Au début, c'était effectivement pas l'apaisement, parce que quand on dit appeasement, ça fait penser à Daladier, Chamberlain et à Munich 1938. Donc ça, c'est quelque
c'est
chose...
C'est très très mal vu aujourd'hui.
C'est très mal vu, et à juste titre, d'une certaine manière. Mais au début, il y avait cette accusation contre Emmanuel Macron, quand il disait d'ailleurs quelque chose de tout à fait banal, qui est de dire qu'il faut garder le dialogue ouvert avec Moscou. C'est le béaba de tout. Et quand il disait qu'il ne faut pas humilier la Russie, dans n'importe quel manuel de négociation, on trouve ça. C'est-à-dire qu'effectivement, le béaba, c'est de dire qu'il faut toujours garder le dialogue ouvert et puis il faut trouver une porte de sortie pour tout le monde. Bon, mais même en disant uniquement ça, qui était quand même du bon sens, et d'ailleurs qui n'était pas différent de ce que disait Biden aux États-Unis, on se souvient des critiques en disant il est prêt à renoncer, etc. Bon, quand il a voulu faire le contraire, c'est-à-dire cette fois, au contraire, l'escalade, il s'est fait taper dessus aussi. En réalité, effectivement, c'est plutôt la troisième méthode qui est la meilleure, c'est-à-dire le containment. Mais ça demande beaucoup de concertation. C'est-à-dire, en gros, c'est quoi ? Ça veut dire qu'il faut essayer d'isoler, de montrer à l'agresseur qu'il est quand même isolé, qu'il va y avoir des sanctions, que ça va avoir un coût politique et économique très important pour lui. Mais ça ne peut pas se faire à travers des déclarations solitaires. C'est quelque chose qu'il faut monter ensemble.
C'est
d'ailleurs, les Européens le font.
On a fait, les Européens. Le problème, c'est que le reste du monde n'a pas suivi.
Alors, le gros problème, c'est qu'on a bien vu que les pays du Sud ne voulaient pas entrer là-dedans. Alors, pas parce qu'ils sont forcément pro-Poutine, parce qu'ils estiment, d'une part, que d'abord, ils ont quand même toujours beaucoup de rancœur depuis les années 2000 et le changement de régime néo-conservateur. Ensuite, parce qu'ils estiment que ce n'est pas leur guerre, c'est une affaire d'Européens. Ils ne voient pas, ils veulent bien condamner à l'ONU l'invasion et l'agression, ils ne veulent pas entrer dans une logique de sanctions. Genre, nous, on a aussi nos intérêts. Quand nous avons des guerres, vous ne faites pas de sanctions, vous ne voulez pas vous auto-contraindre, je vois pas pourquoi vous nous imposeriez ça. Puis il y a quelque chose de plus fort et de plus embêtant, c'est quand ils nous disent arrêtez, c'est ce que d'ailleurs a dit texto le ministre indien des Affaires étrangères, il faut que les Occidentaux et en particulier les Européens cessent de penser que leurs problèmes doivent forcément être les problèmes du monde entier, alors que nos problèmes à nous dans le Sud, ça ne les concerne pas. Ça, c'est pas possible. Et c'est un peu, c'est vrai, ce qu'on a eu tendance commence à faire, c'est-à-dire, attention, on arrête tout, cette fois c'est en Europe, c'est en Ukraine, c'est très grave, donc merci de bien tous vouloir adopter des sanctions. En revanche, le Yémen, la RDC, etc., c'est moins grave, c'est local, et ça agace beaucoup au Sud.
Merci Frédéric Charillon. Je renvoie à votre chronique hebdomadaire dans l'Opinion et à Guerre d'Influence, le livre que vous avez publié chez Odile Jacob. Et nous, on fait une pause et on va parler ensuite des primates avec Cédric Sueur.
Europe 1.
Au cœur de l'histoire, animé par Virginie Giraud, c'est le samedi et le dimanche de 15h à 16h sur Europe 1. Et aujourd'hui, dimanche, Virginie Giraud vous racontera Louis XIV, son règne et sa cour. Et vous pouvez retrouver Au cœur de l'histoire en podcast sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles, sur europe1.fr et sur l'application Europe 1.
C'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï.
Cédric Sueur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur en éthologie et primatologie à l'Université de Strasbourg et vous publiez chez Odile Jacob les péripéties d'un primatologue qui raconte vos nombreuses recherches sur le terrain en Afrique du Sud, au Malawi, au Népal, au Japon. C'est aussi truculent d'être un primatologue sur le terrain que d'être un anthropologue sur le terrain parce qu'il y a une vaste littérature sur ce sujet.
Oui, et les deux métiers se ressemblent beaucoup, hein, que ce soit pour aller sur le terrain ou que ce soit sur les sujets de recherche, on se complète. Parce que souvent, on est aussi appelé anthropologue biologiste, on fait de l'anthropologie biologique, on essaye de comprendre un peu les origines de l'humanité via l'étude des primates non humains.
Alors, les macaques, par exemple, prennent des décisions collectives, nous dites-vous. Ils pratiquent une forme de vote pour décider dans quelle direction aller, par exemple. Comment ils s'y prennent?
C'est même pas une forme de vote, c'est carrément du vote, sauf qu'ils sont pas à main levée, en fait. Quand ils décident de se diriger dans une direction, ils vont diriger leur corps dans cette direction et ils vont se retourner pour signifier qu'ils veulent se déplacer dans cette direction. Et ce qui est intéressant, c'est que, contrairement aux humains où nous, on n'a qu'une seule voix, en fait, ils ont différentes voix en fonction de leur motivation. Et par exemple, s'ils se déplacent 10 fois, ou s'ils font 10 petits déplacements, c'est comme s'ils signifiaient 10 voix, ou qu'ils avaient vraiment une grande motivation à se déplacer dans cette direction. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on n'est pas juste à un comptage de personnes à droite ou à gauche, mais vraiment à un comptage du nombre de voix à droite ou à gauche, plus dans la démocratie participative.
À partir du moment où il y en a un qui se déplace dans cette direction-là, alors que ce soit d'un pas ou de 10 pas, pour signifier à quel point il a envie d'aller dans cette direction-là, les autres vont le rejoindre ou au contraire manifester leur désir d'aller dans une autre direction.
Tout à fait, oui. Il peut y avoir, on n'a jamais vu plus de 3 directions, mais généralement 2 directions chez les macaques. Et c'est un processus qui va durer à peu près une demi-heure. Et au bout de cette demi-heure, l'ensemble des membres du groupe va se diriger dans la direction où il y a le plus de voix qui ont été émises.
Vous dites qu'il est arrivé qu'il n'y ait pas de majorité. Dans ces cas-là, le groupe se scinde en deux.
Oui, 2 fois. Alors c'est très rare, hein, sur le nombre de fois où on a pu observer ces votes. Il est arrivé 2 fois où on avait un nombre égal de chaque côté et le groupe s'est scindé du coup en 2.
Oui, mais c'est la vraie démocratie.
C'est de la vraie démocratie.
et après la publication de vos travaux, à l'époque, d'autres ont rapporté la même chose en ce qui concerne les bisons d'Europe, les sirucates, les licaons qui sont des canidés d'Afrique, les loups aussi votent. Au fond, les animaux votent quand même, dans un certain nombre de cas. Hein.
Tous les animaux qui sont sociaux, il n'y a pas un individu qui impose sa décision. L'ensemble des membres du groupe doit pouvoir vivre au sein de ce groupe, se nourrir, satisfaire leurs besoins. Et de ce fait, il y a eu des processus de décision collective, des systèmes de vote qui se sont mis en place un peu à droite à gauche. Souvent, c'est le corps qui permet d'indiquer, comme chez les bisons. Chez les carnivores sociaux, c'est plus intéressant. Chez les licaons, mon collègue Andrew King a pu montrer que c'était le nombre d'éternuements qui montrait le vote. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et chez d'autres espèces, on va avoir une cérémonie de groupe où, par exemple, chez le loup, il y a vraiment ce processus de jeu avant le départ qui permet d'indiquer qu'ils veulent se déplacer.
Néanmoins, chez les babouins, vous dites qu'il y a un certain goût pour la dictature, là.
Alors, il y a plus ou moins, malgré le fait qu'il y ait cette nécessité de satisfaire les besoins des autres individus, certains d'autres individus vont pouvoir être plus ou moins leaders, parfois à 90%. Ça, c'est pour les décisions collectives. Par contre, il y a tout le système hiérarchique derrière, basé sur les agressions, qui mange en premier, qui va boire en premier. Et là, par contre, il y a un système de dominance avec un individu qui peut imposer le fait qu'il veuille manger à ce moment-là ou qu'il veuille boire à ce moment-là. Ouais.
Cédric Scheur, dans les péripéties d'un primatologue, vous racontez qu'il y a des échanges chez les singes, presque une économie. Et ils savent augmenter le prix des échanges en plus.
Oui, alors ça a été le but de la thèse de ma collègue Marie Pellet, qui a essayé de comprendre ça. Elle a mis en place des protocoles expérimentaux où elle a créé de la monnaie de singes. Elle a utilisé des petits objets et elle a pu échanger ces petits objets avec un singe. Quand le singe lui a échangé cet objet, il avait un morceau de nourriture. Avec un autre singe, elle a fait également ceci. Et ce qu'elle a pu montrer chez les orang-outans, ça a marché, ça fonctionnait que chez les orang-outans, c'est que quand elle les laissait à part et qu'ils avaient des objets l'un qui avaient une valeur pour les uns les autres, ils se mettaient à échanger ces objets pour ensuite pour pouvoir les échanger avec elle. Donc ils comprenaient ce système de monnaie. Et ça, ça a été vérifié sur le terrain avec les macaques à Bali, où ils ont appris eux-mêmes à échanger, en fait, et surtout à voler. Les macaques à Bali se sont mis à voler des objets sur les touristes.
Beaucoup.
Et en fait, ils se sont vite aperçus qu'il y avait certains objets qui avaient plus de valeur. S'ils attrapaient une bouteille d'eau, on laissait la bouteille d'eau. Ils n'avaient pas en retour de la nourriture. Mais s'ils volaient des lunettes ou un téléphone portable, les gardiens du parc commençaient à échanger un petit morceau de nourriture.
Oui, ils disaient rends-le, et voilà. ils lui donnaient à manger en échange.
Ils ont vite compris aussi la valeur de ceci, et ils ont commencé à augmenter le prix. Au début, c'était juste un petit morceau de banane, et à la fin, c'était trois melons entiers. Donc les gardiens ont dû dire on arrête là, parce que ça devient n'importe quoi. Et je pense que quand ils ont décidé d'arrêter, quelques touristes se sont vus voler leurs lunettes et leurs téléphones sans pouvoir les récupérer.
On fait une pause. Cédric Scheur, vous avez encore beaucoup d'histoires à nous raconter.
Europe 1, c'est arrivé demain.
Frédéric Tadini.
Nous sommes ce matin avec Cédric Scheur, qui est enseignant-chercheur en éthologie et primatologie à l'Université de Strasbourg et qui publie chez Odile Jacob les péripéties d'un primatologue. Dans ce livre, vous racontez que les macaques ont des pratiques culturelles. Ils se baignent dans les sources d'eau chaude, ils jouent avec des cailloux. Vous dites même qu'ils s'amusent à faire du rodéo sur des daims. Les daims, D-A-I-M-S. Hein.
Oui, oui, tout à fait. C'est intéressant parce que c'est vrai que quand on pense culture chez les animaux, déjà, il faut savoir penser culture chez les animaux. C'est pas quelque chose qui nous vient forcément à l'esprit. On a tout de suite en tête Jane Goodall avec les chimpanzés. Et ça a été montré dans les années 50-60. Mais avant, Kinji Manichi a pu montrer ceci chez les macaques. Le tout premier comportement qu'il a appelé culturel ou préculturel, c'était le lavage de patates douces. Et ensuite, avec ses étudiants, il a commencé à ratisser le Japon et étudier différents groupes, et il a pu mettre en évidence différents comportements culturels, dont le bain dans les sources d'eau chaude. Il faut savoir qu'il y a des sources d'eau chaude, c'est onsen, partout au Japon, mais il n'y a qu'un seul endroit où les macaques s'y baignent.
Et pourquoi, on le sait ?
Alors, c'est intéressant, ils ont observé les humains dans les années 60 et ils ont reproduit ce comportement.
Oui.
Et du coup, on a dû faire un onsen pour les macaques spécifiquement, parce que sinon, ils venaient se baigner avec les humains et c'est pas très...
très hygiénique, vous voulez dire. Mais là, on est dans le pur divertissement. Hein. C'est comme quand ils jouent avec des cailloux ou qu'ils font du rodéo sur les daims. On est dans le divertissement.
Alors, c'est ça qui est intéressant avec les comportements culturels, c'est que ça n'a pas forcément de fonction. Souvent, quand on est biologiste, on pense à la survie, à la reproduction, le fait que ça puisse apporter plus de nourriture. Il y a certains comportements culturels qui sont fonctionnels. Le fait de manger des poissons morts sur certaines plages, il y a que certains groupes qui ont montré ceci. Le fait aussi d'utiliser des cailloux pour casser des coquillages ou d'aller manger des coquillages. Mais il y a d'autres comportements qui sont pas du tout fonctionnels. Ceux qui se baignent dans les onsen au même endroit, ils font aussi des boules de neige pour jouer avec des boules de neige, voilà. Comme des enfants le feraient.
Donc on peut parler de divertissement. En pur, oui. Exactement comme les humains. Vous avez également étudié au Népal les réseaux sociaux chez les yaks. Alors qu'est-ce que vous entendez par réseaux sociaux ?
Oui, alors quand on pense à réseaux sociaux, on pense à Facebook ou Twitter, mais là c'est pas du tout ça. En fait, quand des individus vivent dans un groupe, ils sont à proximité, ils vont échanger des interactions, du toilettage... parfois des agressions. Et moi, c'est ça que je regarde, ces comportements. Et avec l'ensemble des comportements, je construis un réseau qui me permet de voir comment le groupe est structuré en fonction des individus dominants, âgés, en fonction du sexe. Et ce qui est intéressant avec les ongulés, que j'ai beaucoup étudié également, c'est essayer de voir comment la domestication influence ces réseaux sociaux et également les comportements sociaux. Donc j'ai étudié des Highland Cattle, vaches écossaises, des bisons, des vaches et des yaks. Et les yaks, ce qui est aussi intéressant, c'est que les Népalais, là-bas, qui les gardent, utilisent ces réseaux sociaux ou essayent de les modifier pour augmenter la cohésion du groupe. Parce que les yaks vivent en petites unités de 5 individus, alors que leurs troupeaux font 60. Donc s'ils ne veulent pas qu'ils se dispersent à droite à gauche et qu'ils se fassent tuer par la panthère des neiges, il faut garder cette cohésion. Donc le soir, ils vont mettre deux jeunes l'un à côté de l'autre. Les mères vont garder ces jeunes. Et en fait, ces mères sont spécifiquement mises ensemble pour garder la cohésion du groupe. Et ça, c'est très intéressant de voir comment ils utilisent l'éthologie dans leur élevage et l'agriculture népalaise.
Vous avez parlé de la panthère des neiges. Vous avez eu la chance de la rencontrer au Népal. C'est l'une des espèces animales les plus difficiles à observer. Vous l'avez rencontrée le premier jour. C'est quand même extraordinaire. Vous en avez rapporté 500 photos, je crois.
Oui, c'est ça. Tout à fait, oui. J'avais mis plus de 12 heures pour faire 60 kilomètres, on s'était embourbé pendant 6 heures. J'avais très mal dormi, le matin je m'étais réveillé à Manang à 3500 mètres d'altitude et je cherchais mon doctorant et je l'ai vu arriver. Et il était un peu affolé, excité en me disant « on a vu la panthère des neiges, est-ce que tu veux venir avec moi la suivre ?» Et forcément j'ai dit oui. Donc on a commencé à aller le long de la rivière où il l'avait vu, on a vu des traces, déjà ça c'était super. Et ensuite on a vu des barrales, des chèvres. Au Népal, on s'est dit que ça pouvait être un endroit où la panthère des neiges chassait. Et on s'est posé justement sur une ligne de crête pour observer une autre ligne de crête. Et un peu comme Vincent Munier, du coup j'ai photographié pour essayer de voir s'il y avait des taches et si c'était une panthère des neiges. Et à un moment donné, elle était là, elle nous regardait. Et nous, on l'avait pas vu, c'est en agrandissant la photo que j'ai pu la voir. Et du coup, on est resté 2 heures à pouvoir l'observer. Et on l'a encore vu le lendemain, oui.
Qu'a-t-elle de si fascinant, alors? À part le fait qu'elle est très rare et qu'il est difficile de la voir.
Mais je pense que elle est rare parce que justement, elle est cryptique. C'est-à-dire qu'elle est là, mais contrairement à d'autres animaux, elle se cache, elle est silencieuse. Elle peut être juste à côté de vous sans que vous puissiez la voir. Et je pense que ce côté fantomatique, c'est ça qui fait c'est vraiment un graal de pouvoir la voir. Oui.
Observer les animaux, est-ce que ça permet de mieux comprendre les humains, Cédric Scheuer ?
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé ma thèse, j'essayais d'étudier les animaux, mais pour montrer que les animaux étaient très proches, plus proches des humains dans leur intelligence. Et finalement, au fur et à mesure des années d'études que j'ai faites, je me suis rendu compte que c'était les humains qui étaient des animaux. On est des animaux, mais moi, en tout cas, on a pu le montrer à travers les différents comportements. Ça permet de mieux comprendre les processus biologiques chez l'humain, de pouvoir mieux les anticiper, de pouvoir aussi comprendre pourquoi parfois il y a des blocages. C'est souvent quelque chose qu'on oublie. On pense que l'humain est juste culturel et en fait il est aussi biologique. Hein. Il y a un processus d'évolution derrière de millions et des millions d'années. Et en étudiant les animaux et leurs comportements, on peut mieux comprendre justement l'humain.
Mais ce processus d'évolution qui a pris des millions et des millions d'années, est-ce qu'on peut le réduire à un instinct? Est-ce qu'il y a un instinct humain?
Alors, je dirais pas qu'il y a un instinct humain, mais en tout cas, il peut y avoir certains comportements qui sont avec une plus grande base instinctive que d'autres. Et ça, c'est intéressant. On peut prendre des exemples chez les petits, par exemple. Vous posez un bébé qui vient de naître, il va monter directement sur le sein de sa mère en sentant les phéromones. Et ça, l'odeur chez les humains, c'est quelque chose qu'on a assez oublié parce qu'on pense être très visuel. Et d'ailleurs, on est très visuel et très auditif, mais le coup de foudre qu'on a l'impression d'avoir, c'est on pense que ça peut être un échange de phéromones qu'il y a entre deux personnes et ils s'en rendent pas compte. J'ai entendu il y a pas longtemps que les personnes qui sont devenues anosmiques à cause du Covid-19, c'est-à-dire qui n'arrivent plus à sentir, ont des problèmes sociaux. Parce qu'en fait, ils n'arrivent plus forcément à déterminer les odeurs des personnes qui sont en face d'elles, si elles sont stressées ou pas. Il y a le côté visuel, mais il y a aussi un côté olfactif qui est absent, et ça c'est intéressant.
Vous voulez dire qu'on a l'impression qu'on ne se sert pas de notre nez au fond, que
mais,
c'est notre...
Et pourtant le nez c'est la mémoire la plus... c'est ce qui apporte le plus d'émotions au niveau de la mémoire, et c'est ce qui permet du coup de ressentir et de se rappeler le plus de choses.
Il y a un chapitre dans votre livre qui est consacré à cet orang-outan qui est devenu dessinateur. Il n'est pas le premier, hein. D'autres singes avant lui sont bien dessinés. Celui-ci dessine particulièrement bien, vos yeux ? Il s'appelle Moïse, hein, je crois.
Molly, c'est une femelle, elle s'appelle Molly. Et en fait, elle était avec quatre autres orang-outans. Et comparée aux autres orang-outans qu'il y avait avec elle, elle dessinait beaucoup mieux. Dans le sens où ses dessins étaient beaucoup plus complexes et beaucoup plus prononcés. C'est-à-dire qu'elle remplissait vraiment la feuille de différentes formes et de différentes couleurs.
Avec des feutres, hein.
Avec des feutres, oui, on lui donnait 12 stylos, toujours les mêmes. Et du coup, elle a dessiné comme ça pendant 10 ans. Elle a produit à peu près 1300 dessins, alors que les 4 autres ont à peine fait 200 dessins pendant ces 10 ans. Ce qui montre vraiment sa motivation à dessiner. Et ce qu'on a pu montrer, alors, de manière... en utilisant l'éthologie classique, c'est-à-dire en essayant de voir de nous-mêmes les différentes couleurs, le remplissage dans la feuille, mais aussi en utilisant l'intelligence artificielle, c'est qu'elle changeait de couleur ou qu'elle pouvait changer de forme en fonction des saisons. Donc il y avait vraiment quelque chose derrière.
Comme les impressionnistes, au fond.
Oui, et ces tableaux ressemblent d'ailleurs dans l'utilisation des couleurs, parfois beaucoup à un tableau impressionniste.
Merci Cédric Sueur. Je renvoie à la lecture de votre livre « Les péripéties d'un primatologue ». Ça vient de paraître chez Odile Jacob.
Merci beaucoup.
Europe 1.
C'est arrivé demain, est arrivé à son terme. On se retrouve samedi prochain à 9h pour la suite. Passez une très bonne semaine sur Europe 1. Dans un instant, ce sera le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, animé par Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia, qui est votre invitée ?
Bonjour à vous cher Frédéric. Notre invitée, c'est la ministre Aurore Berger. Et pour l'interroger, je serai accompagnée de Nicolas Barret des Échos et de Mathieu Boccoté.
Merci Sonia, bonne émission.